J'ai eu à cœur un thème que j'ai intitulé « Le grand bonheur de servir Dieu ensemble » ou « La grâce de servir Dieu ensemble ». J'étais un peu surpris, ou pas surpris, mais en relisant, il n'y a pas si longtemps, dans l'évangile de Jean, ce texte dans la parabole de... la parabole du vrai cep, ce verset qui affirme que séparé de moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, je crois que ça nous met à notre place là. Séparé de moi, vous pouvez rien faire. Et pourtant, ce qui est assez extraordinaire, c'est que Dieu, il a choisi de faire avec nous. Dieu veut faire avec nous. Il veut faire de nous ses collaborateurs. Et pour cela, il a mis à nous qui croyons en nous son esprit, le Saint-Esprit. Nous sommes, notre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est vrai, sans séparer de lui, nous ne pouvons rien faire. Mais voilà, Dieu va nous donner cette capacité de vivre des choses impossibles sans lui. Et en particulier de pouvoir servir ensemble. Pourquoi Dieu veut nous utiliser là sur la terre? Eh bien, il veut manifester sa puissance. Sur la terre. Il désire que sa puissance s'accomplisse par nous et que sa gloire soit vue, qu'elle brille. Il désire même plus que ça, il désire que nous ayons chacun une influence positive autour de nous. Et encore plus que nous soyons une source de bénédiction pour ceux qui nous entourent. Vous vous rendez compte ça ? D'un autre côté, si Dieu veut nous utiliser, nous découvrons, et c'est une réalité, nous sommes tous uniques. Par notre personnalité, par nos talents, nos capacités, par notre arrière-plan culturel, racial, toute chose que vous imaginez. On est tous différents. D'ailleurs, heureusement, parce que si on était tous des clones... Et si on se voit partout dans la rue, on devient fou, quoi. Hein, vous ne croyez pas ? Heureusement qu'on est différents. Et justement, Dieu va utiliser cette différence pour être chacun complémentaire. Mais il y a une chose qui est semblable. C'est que pour Dieu, nous avons la même valeur. Nous sommes aimés de la même manière. Et en lui, nous trouvons la sécurité. Mais ce que nous apprenons quand même plus ou moins facilement, quelquefois difficilement, c'est que nous avons besoin les uns des autres. Et c'est de ça que j'aimerais parler, qu'on pourrait partager ensemble. Et je vous propose pour ça de lire un texte biblique dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 11. Donc Actes des Apôtres, et c'est l'histoire d'une église, c'est l'histoire de l'église d'Antioche. Je dirais, je mettrai derrière une église en bonne santé. On va découvrir la naissance d'une église, je ne sais pas depuis combien d'années il y a une église à Orange là, quelqu'un le sait ? Ça fait combien d'années qu'il y a une église ici ? Plus de 100 ans, voilà. Peut-être plus de 100 ans, mais bon, c'est simplement pour dire que ce n'est pas une église naissante ici. Et peut-être que on va se rendre compte, c'est peut-être plus compliqué de vivre ensemble quand ce n'est pas une église naissante. Peut-être qu'il nous manque un projet ou... Enfin, je ne sais pas ce que vous vivez ici, hein. Moi, je sais ce qu'on vit à La Rochelle. Voilà, une vie, une assemblée aussi qui a 100, 125 années à peu près. C'est un peu, vous avez entendu parler de la courbe de Gauss. Et ben, il y a la croissance, ça, ça monte, il y a une, vraiment du punch là, ça. Puis à un moment donné, persévérer, hein, on entend souvent ce mot dans le Nouveau Testament. J'étais toujours très curieux de voir que au premier moment où des chrétiens sont rassemblés, il y a cette expression « et ils persévéraient dans la communion des apôtres », c'est-à-dire ils persévéraient dès le début. Donc c'est sans doute quelque chose qui est difficile voilà, dans le temps. En tout cas, lisons la parole de Dieu, donc écoutons ce qui est écrit dans ce chapitre 11 et à partir du verset 19. Ceux qui avaient été dispersés, à la suite de la persécution qui arriva à l'occasion d'Étienne, passèrent jusqu'en Phénicie, à Chypre et à Antioche. Il s'agit de l'Antioche qui se trouve à 500 km au nord de Jérusalem. C'est la, juste la frontière turque hein, sur la Méditerranée. N'annonçant à personne la parole, si ce n'est à des Juifs. Mais certains d'entre eux étaient des Cypriotes ou des Chypriotes et des Cyrénéens qui, venus à Antioche, parlaient aussi aux Grecs, annonçant le Seigneur Jésus, la main du Seigneur était avec eux, un grand nombre crurent et se tournèrent vers le Seigneur. La nouvelle en parvint aux oreilles de l'assemblée qui était à Jérusalem, et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Quand il y fut arrivé et qu'il y vut la grâce de Dieu, il se réjouit. Et il les exhortait tous à demeurer attachés au Seigneur de tout leur cœur. Car il était un homme de bien et plein de l'Esprit Saint et de foi. Et une grande foule fut ajoutée au Seigneur. Il s'en alla ensuite à Tarse pour chercher Saul. Après l'avoir trouvé, il le mena à Antioche et pendant une année entière, il s'est réuni dans l'assemblée et enseignèrent une grande foule. Ce fut aussi à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent nommés chrétiens. En fait, descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'entre eux, nommé Agabus, se leva et déclara par l'Esprit qu'une grande famine aurait lieu dans toute la terre habitée. Effectivement, elle a eu lieu sous Claude. Alors, les disciples, chacun selon ses ressources, décidèrent d'envoyer un secours aux frères qui demeuraient en Judée. C'est ce qu'ils firent, l'envoyant aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul. Je lirai la fin du chapitre 12, 24. La parole de Dieu croissait et se multipliait. Barnabas et Saul, après avoir accompli leur service, donc d'avoir porté ce don à Jérusalem, s'en retournèrent, donc de Jérusalem, emmenant avec eux Jean, qui est aussi appelé Marc. Au début du chapitre 13, et il y avait à Antioche, dans l'assemblée locale, des prophètes, des docteurs, et on entend quelques noms là, ici, Barnabas, de Chypre, et Siméon, appelé Niger, c'est-à-dire noir, le noir, Lucius, de Cyrène, de la Libye, Manaëm, qui avait été élevé avec le tétrarque, donc à la cour du roi, Hérode et Saül, ou Saul, pardon, et Saul. Comme ils accomplissaient le service du Seigneur et jeûnaient, l'Esprit Saint dit « Mettez-moi maintenant à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent aller. Il y a une terrible persécution à Jérusalem, on trouve ça dans le chapitre 8. Et un des moteurs de la persécution, c'est un dénommé Saul. D'ailleurs, c'est très frappant, cet homme, Saul. Il est dit dans le début du chapitre 11 qu'il respirait menaces et meurtres. Ça veut dire qu'il était tellement imprégné de faire mourir les gens que son haleine sentait la mort. Il respirait mort, meurtre. Voilà celui qui était au pied de... Là, quand Étienne a été lapidé, il était là. Et voilà que, au moment où finalement, ça y est, on va arrêter cette espèce de dynamique.
Comme une dynamique là, qui se passe. Enfin, ça y est, les gens sont dispersés.
Le mot, c'est disséminé. Hein, il y a le mot semence. Et au lieu justement que ça s'arrête, ça multiplie. C'est intéressant de voir que avec le Seigneur, ce n'est pas des additions, c'est toujours des multiplications. C'est extraordinaire ça. Et voilà que ceux qui sont dispersés, qui sont dans l'épreuve, on dirait, mais Seigneur, enlève-nous l'épreuve. Souvent, on est comme ça, et c'est vrai, et si on souffre ou autre, enlève-moi ça. Et puis on va voir que là, Dieu va utiliser ce drame, on peut dire, qui ça pourrait s'apparenter comme un génocide, on dit, hein, quelque chose, un drame. Et voilà que partout où passent ceux qui ont reçu la vie de Dieu, des petites lumières s'allument sur la terre. L'Église grandit, se multiplie. Et voilà, nous arrivons à Antioche où une église est née. Antioche est la troisième ville du royaume de Rome et de l'Empire romain, après Rome, Alexandrie, et c'est une ville d'environ de 500 000 habitants, aussi qui était un carrefour. Il y avait beaucoup de monde qui passait par là. Et voilà une église. Et puis, il y a un bruit. Là-bas, il y a une église qui vient de se former, mais nous, à Jérusalem, quand même, la première église où tout a commencé, il faudrait quand même savoir ce qui se passe. Il faudrait voir s'ils sont bien dans la norme, quand même. Alors, il va falloir trouver quelqu'un pour aller voir ce qui se passe là-bas. Et c'est magnifique, le choix de Barnabas. C'est quelqu'un d'extraordinaire, ce Barnabas. Partout où il passe, il transforme les murs en ponts. Partout où il passe, des gens qui sont malheureux retrouvent la joie. C'est le fils de consolation. Barnabas, ça veut dire ça, de consolation. Il dit qu'il est... vous avez lu avec moi ici, qu'est-ce qu'il caractérise ici? C'est un homme de bien, je crois, un homme de bien. C'est-à-dire que sa préoccupation, sa vie, c'est que du bien puisse être manifesté, qu'il participe au bonheur de chacun de ceux qu'il rencontre. C'est ça, sa vie. Et ensuite, il est dit qu'il est plein de l'Esprit Saint. Mais c'est le consolateur. Voilà quelqu'un qui va consoler. Je trouve que c'est assez extraordinaire de voir que c'est quelqu'un, c'est pas le plus orthodoxe des frères de Jérusalem qui est envoyé là-bas pour voir s'ils sont bien dans la ligne. Non, c'est quelqu'un qui va voir, voilà, est-ce qu'il y a du bien là? Quand vous allez quelque part ou quand vous rencontrez quelqu'un, est-ce qu'au fond de votre cœur, c'est ça qui vous anime? Voilà, simplement pour que du bien, le bien de Dieu puisse se manifester là. Et il arrive, et qu'est-ce qu'il voit? Il regarde, sans a priori, et il voit la vie de Dieu se manifester. Il voit une église qui vit de l'amour de son Seigneur, et il se réjouit. Il se réjouit. Je voudrais déjà peut-être au moins retenir une chose. Est-ce que nous apprenons à nous réjouir en voyant ce qui est vécu, en voyant comment la vie de Dieu se manifeste? voire même s'il y a un tout petit progrès, mais c'est réjoui, parce que la vie de Dieu est se manifeste. Nous avons lu ici que Barnabas, s'il est plein de l'esprit ici, nous voyons ici qu'il va avoir comme seul désir que les chrétiens là n'ont pas, connaissent mieux la doctrine, c'est pas le problème aujourd'hui. Et je crois qu'il faut vraiment réfléchir qu'est-ce qui est le moteur de ma vie aujourd'hui. Est-ce vraiment ma relation avec mon Seigneur, avec Jésus? Est-ce que c'est vraiment la relation avec Dieu, mon Père? Est-ce que c'est ça ma raison de vivre? Eh bien, justement, Barnabas, le consolateur, va encourager les frères et sœurs de l'Église à être attachés au Seigneur, mais de tout leur cœur. J'ai beaucoup aimé ton psaume ce matin. J'ai beaucoup aimé parce qu'il y a quelque chose de particulier. Il ne s'adressait pas et il ne parlait pas spécifiquement des dons de Dieu qui sont essentiels pour notre vie. Mais cette expression qu'il y avait dans ce verset et que tu as relu, je me souviens de toi, je médite de toi. Vous savez, si c'est les dons de Dieu qui sont le fondement de ma foi, quand il n'y a plus ces dons-là, qu'est-ce qu'on fait? On n'a plus rien. Quand c'est vraiment la personne de mon Seigneur, eh bien oui, ce qui me manque est remplacé par la présence même de mon Seigneur, de mon Dieu. Barnabas encourage. Et Barnabas me touche parce qu'il connaît ses limites. Ce qu'il fait, il le fait à fond. Aimer les gens, apporter du bien, il le fait à fond. Mais ce qu'il ne sait pas faire, il ne le fait pas. Et il va partir 200 km à Tarse. Il va chercher qui? Il va chercher Paul, Saul. Il n'y a pas quelque chose qui vous choque là un peu? Là-dedans, il y a, dans cette assemblée, il y a un certain nombre de personnes qui ont dû partir à cause de la persécution qu'on a au chapitre 8, et qui sont là dans l'assemblée. Il est un peu gonflé, non? Vous ne trouvez pas, Barnabas, d'aller chercher Saul pour enseigner celui qui a peut-être tué ma femme, qui a peut-être martyrisé ma mère? Il va chercher. Il fait à fond ce qu'il sait faire, Barnabas. Quand il ne sait pas faire, il a quelqu'un qui va faire à fond ce qu'il sait faire. Et l'un plus l'autre va faire quelque chose d'extraordinaire. Quand on apprend ça, déjà, il y a plein de choses qui s'en vont. La jalousie, il n'y a plus. Quand on est avec son Dieu, il n'y a plus. Puisque je suis à fond dans ce que je sais faire, mais ce que je ne sais pas faire, il est là. Autrement dit, mon frère, ma sœur n'est plus un obstacle pour ma vie, ma croissance spirituelle. Mais c'est une grâce. Mon frère et ma sœur est une grâce. Ce n'est pas un obstacle. Je ne sais pas si ça vous parle. Et je voudrais que on puisse regarder en quoi cette Église a un témoignage impressionnant, peut être un exemple pour nous. Vous me direz, oui, mais ce n'est pas la même époque. Non, mais c'est la parole de Dieu qui est là. Et j'aimerais qu'on réfléchisse en quoi on est un exemple. Et un exemple, ce n'est pas faire la même chose que quelqu'un qu'un exemple. Mais de voir aussi qu'est-ce qui l'a motivé, quels sont les résultats d'un engagement là, attaché au Seigneur de tout son cœur. Alors, on va reprendre ça et je vais vous proposer 5 ou 6 choses qui finalement montrent cette Église en bonne santé. Première chose qu'on a pu voir au verset 21, la main du Seigneur était avec eux. Un grand nombre crurent et se tournèrent vers le Seigneur. Donc voilà, on voit une croissance numérique des conversions. Donc je crois que la mission de l'Église, ou l'Église en mission, c'est de faire de sorte qu'il y ait des personnes, hommes, femmes, enfants, qui découvrent Jésus. Hein, c'est une des raisons. Donc première chose, des conversions. La deuxième chose qui caractérise cette Église en bonne santé, c'est que l'exhortation, il semble bien que la suite le montre, fait que chaque croyant, chaque croyante s'attache de plus en plus au Seigneur. C'est-à-dire met toute sa force pour se lier, d'être vraiment dans l'intimité, non pas seulement pour demander quelque chose. Tiens, je voudrais juste vous lire le psaume 131 pour justement que vous compreniez quelque chose. Quelquefois, on s'approche de Dieu parce qu'on veut lui dire merci ou parce qu'on a besoin de quelque chose. Vous voyez ? Et dans ce psaume 131, il est parlé comme d'une mère. Une mère, et quand on est un tout petit bébé, eh bien, qu'est-ce qu'on fait pour, on ne s'approche pas tout seul. On est approché de la mère pour boire, pour manger. C'est ça. Et là, dans son psaume 31, écoutez bien. David dit ceci: « Éternel, mon cœur n'est pas hautain, mes yeux ne s'élèvent pas. Je n'ai pas marché en des choses trop merveilleuses ou trop grandes ou trop merveilleuses pour moi. N'ai-je pas soumis et fait taire mon âme comme un enfant sevré auprès de sa mère ? Mon âme étant en moi comme un enfant sevré. » Autrement dit, voilà quelqu'un qui s'approche de sa mère, non pas pour avoir quelque chose, pour boire, pour manger, pour prendre des forces, mais pour être dans ses bras, tout simplement, parce qu'il est sevré. Il ne va pas là pour boire. Il est bien dans ses bras. Et c'est ça, être attaché. C'est ça qui nous transforme. Nous sommes transformés. Relisez de Corinthiens au chapitre 3, puis vous verrez par l'esprit du Seigneur. Transformé dans sa proximité. Et puis, voilà, attends-toi à l'Éternel. C'est ça. Voilà, donc, conversion. Deuxièmement, s'attacher au Seigneur. C'est caractéristique. C'est ce que je désire pour moi-même. Et troisièmement, quand Saul arrive, eh bien, je découvre ici qu'une âme attachée au Seigneur est capable de faire quelque chose, en tout cas pour un certain nombre, d'impossible humainement, c'est de pardonner d'abord. Si les frères et sœurs qui avaient été martyrisés par l'équipe de Saul n'avaient pas pardonné, c'était un mur, et toute la bénédiction pendant un an, il n'aurait pas pu en profiter. Imaginez-vous, si vous ne pardonnez pas à quelqu'un, vous vous privez d'une bénédiction, et combien de temps ça va durer ? Eh bien là, ici, troisième manifestation, le pardon, réconciliation. Et à ce moment-là, on est frère. Et pourtant, ma mère a été martyrisée par cet homme. Peut-être quelqu'un de ma famille est mort par cet homme. Mais par la puissance extraordinaire de Dieu, eh bien, des gens irréconciliables deviennent frères. Et je peux entendre, je peux profiter de ce que tu as pour moi et que moi, je ne pouvais pas recevoir si j'avais fermé. Combien de fois on a perdu ? On a perdu une bénédiction parce qu'on n'a pas pardonné. Et dans la vie du couple, c'est la même chose. Un homme, il est que la moitié finalement. Il a besoin de toute l'autre moitié. Et inversement, s'il y a des conflits, on ne profite pas. On ne profite plus de cette bénédiction quotidienne que Dieu nous a donnée. Voilà, chose, pardon, réconciliation. Quatrième chose que je remarque ici, à la fin du verset 26, et c'est pour la première fois que les disciples furent nommés chrétiens. Et nous a dit que, et c'est je crois vrai, que c'était un nom un peu péjoratif de ceux qui faisaient partie du qui suivaient le Christ, hein, celui qui avait été cloué, vous savez, là il y a une quinzaine d'années à peu près, 15-20 ans que ça a eu lieu. Voilà. Hein, cette secte-là des gens-là. Voilà. Ils acceptent ça parce que quand on devient chrétien, on vous dit, mais venez à Jésus et tout ira bien dans votre vie. Oui, mais n'oubliez pas qu'il a dit que si tu ne prends pas ta croix pour me suivre, par amour pour moi, tu passes à côté ta vie de disciple. Oui, complètement. C'est pas rien que de devenir un disciple du Christ. Mais attaché au Seigneur, dans les bras, hein, comme on a vu dans le psaume 131. Oui. Ça, c'était donc la quatrième chose. La cinquième chose qui est un résultat aussi, c'est concrètement. Eh bien, on n'est pas des intellos du christianisme, nous sommes des gens dans la pratique. Parce que Jésus, lui, eh bien, il a été dans la pratique, il a pris soin des personnes. Eh bien voilà, il y a un prophète qui vient dire, il va y avoir une famine là-bas vers Jérusalem. Eh bien alors, on y va. On n'a pas beaucoup de moyens, on va quand même faire. Il faut faire un effort pour eux. Ils vont souffrir. Alors, nous voyons dans le paragraphe qu'on a lu, bien voilà, ils envoient pour envoyer du secours. Donc, secours, c'est dans le sens du don. Et Paul parlera dans les Romains aussi du service qu'il a accompli en portant le don, voilà, à Jérusalem, à ceux qui allaient avoir. Effectivement, elle a eu lieu. Hein, on a l'histoire après aussi. Donc, c'est vraiment que c'était une vraie prophétie. Donc voilà, ils donnent selon leurs ressources dans les familles en difficulté à Jérusalem. Et puis, il y a l'assemblée grandit. Et ce qui est beau, c'est que on a vu au début du chapitre 13, et c'est le sixième point qui montre cette église en bonne santé, c'est qu'il y a des dons de l'esprit qui se manifestent là. Il y a des docteurs, il y a des prophètes, il y a des évangélistes, puisqu'ils parlent du Seigneur partout où ils sont. Ils font l'œuvre, en tout cas, d'un évangéliste. Ils sont là. La diversité est là. Et puis, ils sont tous là, unis, puisqu'on les voit aussi prier ensemble. L'Église prie pour après envoyer des missionnaires. Voilà une Église en bonne santé. Peut-être que... Ouais, ça, c'est sympa quand même de voir une église comme ça. Mais c'est pas une exclusivité de cette église. Hein. À Orange, ça peut être comme ça. C'est peut-être déjà comme ça aujourd'hui, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. Maintenant, ce qui est la question qui se pose, c'est que voilà, nous sommes chacun différents, mais vous allez dire, mais c'est toi qui le dis, mais dans 1 Corinthiens chapitre 12, c'est quand même important de pouvoir lire aussi ces textes qui nous parlent. Est-ce que on a vraiment conscience que mon frère ou ma sœur, j'ai besoin de toi? J'ose pas vous dire ça, mais est-ce que vous pouvez sincèrement au fond de votre cœur vous tourner vers celui qui est à votre droite ou à votre gauche, là ceux qui sont devant il n'y en a pas, mais j'ai besoin de toi, est-ce que vous pouvez vraiment dire ça à votre frère et à votre sœur, sans vraiment avoir quelque chose qui vous retient, j'ai besoin de toi. Vous savez, il est parlé souvent d'estimer son frère supérieur à soi, mais ça veut dire quoi ça exactement? Et ça, je crois que c'est ça. J'ai besoin de toi. Et quand on ne peut plus le dire, ce n'est pas de la faute de l'autre, attention. Qu'est-ce qui se passe dans mon cœur? Donc nous sommes membres du corps de Christ et je voudrais juste lire, juste sans dire grand-chose, sur quelques versets dans ce 1 Corinthiens 12. Parce que je crois qu'on doit comprendre cette dynamique du corps de Christ que nous voyons dans l'exemple d'Antioche. Donc au verset 12, je vais vous lire quelques versets de 1 Corinthiens 12. En effet, de même que le corps est un... et qu'il y a un grand nombre de membres, mais que tous les membres du corps, malgré leur nombre, sont un seul corps, ainsi aussi est le Christ. Le Christ, corps, plus tête, Jésus-Christ lui-même. Ainsi aussi, nous avons tous été baptisés d'un seul esprit pour être un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit homme libre. Nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Et en effet, le corps n'est pas formé d'un seul membre, mais d'un grand nombre. Et là, c'est là qu'on va voir la diversité. Si le pied disait, parce que je ne suis pas main, je ne fais pas partie du corps, est-ce que, à cause de cela, il ne fait pas partie du corps? En tant que quelquefois, moi, j'ai pas de don, moi. Donc, moi, je suis pas important. Non, non, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. C'est un mensonge que vous entendez du diable et qui vous raconte ça, mais c'est pas vrai. Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas œil, je ne fais pas partie du corps, est-ce que, à cause de cela, elle ne fait pas partie du corps? Et si le corps tout entier était œil, vous imaginez? Un œil de 75 kilos qui arrive là à l'entrée. Ouf. Où serait l'ouïe? Et si tout était oui, où serait l'odorat? Mais de fait, Dieu a placé les membres, chacun d'eux, dans le corps comme il a voulu. Donc voilà, je suis tellement reconnaissant de pouvoir participer à l'œuvre de Dieu dans ce qu'il m'a donné, dans ce que je sais faire. Que je le fasse pleinement, que je puisse dominer en quelque sorte ce que Dieu m'a donné. En réalité, les membres sont nombreux, mais le corps est un. L'œil ne peut pas dire à la main, donc ces besoins mutuels là dont on parlait, « je n'ai pas besoin de toi ». Ou bien encore la tête aux pieds, « je n'ai pas besoin de vous ». Voilà. Voilà ce que je voulais lire sur ça, pour confirmer ce que je voulais, c'était bien la parole de Dieu. Donc l'église locale et l'expression ici à Orange est une expression de ce qu'est l'église. L'église, c'est l'ensemble de tous les croyants de tous les temps, ça c'est la vision qu'on trouve dans la fin du chapitre 2 d'Éphésiens. C'est donc l'ensemble de tous les croyants et qui forment l'épouse et qui va rencontrer le Seigneur. Et puis, le corps de Christ, on le trouve aussi comme étant l'ensemble de tous les croyants sur la surface de la terre vivant à un temps donné, T. Hein, ça, c'est aussi le corps de Christ. Et puis, dans les localités, il y a l'Église qui est rendue visible par des croyants qui se rassemblent, comme vous, ici à Orange. Donc, ça me semblait intéressant de rappeler ça. Et Je passe à quelque chose qui me tient à cœur maintenant, c'est de dire, mais cette diversité, alors on dit que c'est une richesse. Ben oui, c'est une complémentarité, c'est une richesse. Mais n'empêche que ça peut être une source de déséquilibre. Et ça, il faut pas le nier, ça. Vous savez, si une église locale n'est faite que des gens qui se ressemblent, c'est-à-dire qui sont tous de la même classe sociale, qui sont tous à peu près du même âge, qui sont etc. Mais c'est pas du tout la pensée de Dieu. L'église locale est le reflet de la société dans laquelle nous sommes. Il faut pas l'oublier, ça. Et à ce moment-là, c'est pas si simple. Et c'est vrai que peut-être dans nos assemblées, on a eu aussi ce privilège, il y avait beaucoup de familles avec beaucoup d'enfants, beaucoup de nos églises avaient été formées finalement de nos progénitures, mais c'est un truc fermé, c'est pas ça du tout. L'église est un ensemble de personnes qui arrivent d'origine complètement différente, arrière-plan complètement différent. Et c'est ça qui est miraculeux dans l'œuvre de Dieu. Parce que ces gens si différents, d'origine si différente, qui ont des choses qui sont importantes pour elles, vont pouvoir vivre ensemble. Et c'est ça qui va être complémentaire. Et c'est ce qu'on trouve ici, puisque j'ai pris le temps de vous lire dans le début du chapitre 13, d'actes, qu'il y avait des gens de couleurs différentes, de niveau social différent. J'ai noté exprès ça, d'arrière-plan différent, parce que d'autres, de pays différents, donc il y avait des juifs, des non-juifs, etc. Hein, tout ça. Et ensemble, ça marche. Si je retrouve, là, j'avais noté, oui, ici, ce qu'un maire d'une commune de la région parisienne, et je crois que tu dois connaître cette citation, parce que je ne sais pas si ce n'est pas Joël Proin qui me l'avait donnée, il était venu donc à l'occasion d'une réunion d'une église de la région parisienne. Et c'était comme, est-ce que c'était une porte ouverte, je ne sais pas, le maire de la ville était là. Et à la fin, voilà ce qu'il a dit. Ce que je vois parmi vous, et c'est que j'ai pour mission d'accomplir dans ma commune, le vivre ensemble, je n'ai jamais réussi à le faire, et vous, oui, bravo. Voilà ce qu'il pouvait dire. Est-ce qu'on peut, on pourrait dire ça de nos églises locales, vraiment? Et je pense que c'est oui. Alors, source des déséquilibres. Oui, nous avons beaucoup d'exhortations dans la parole de Dieu pour nous supporter les uns les autres. Nous avons des caractères différents, et ça c'est facile à reconnaître. Nous avons aussi des arrière-plans différents, mais aussi nous sommes à des générations différentes. Et franchement, entre ma génération et la génération de mes petits-enfants, c'est vraiment un monde différent. Et si je veux me recroqueviller dans ma coquille en disant voilà ce que nous vivons en Église, ça c'est comme ça depuis un certain nombre de siècles, j'allais dire, et que c'est vraiment ça la pensée de Dieu, c'est sûr qu'il n'y aura pas beaucoup de petits-enfants dans les Églises dans les années qui viennent, ça c'est évident. Alors comment faire pour garder l'essentiel? Ben, c'est quoi l'essentiel au fait? Quelle est la doctrine qu'on a vue là dans le livre des Actes? Ce n'est pas la doctrine qui tient unis les gens. C'est l'attachement au Seigneur. Hein? Souvent, on fait un grand cercle, on se tient par la main, et puis on serre les mains. Qu'est-ce qui se passe? On se rapproche du centre, on se rapproche les uns des autres. C'est ça qui unit. Hein? Attaché au Seigneur, ça nous resserre les uns contre les autres. Voilà. Ça, c'était juste quelque chose que je voulais souligner ici. Donc, ce qui me paraît important ici, c'est que il y a aussi dans nos différences à supporter, c'est notre le niveau spirituel. Attention à ce que je veux dire. Il y a des petits enfants spirituels ici, des bébés, c'est ceux qui viennent de naître spirituellement. Hein, il y en a quelques-uns qui sont nés sans doute il n'y a pas longtemps ici. Et puis il y a ceux qui ont déjà grandi dans la maturité. Et c'est sûr que quand on débute, et ben on a tout à apprendre, on fait plein de bêtises, ben c'est partie des choses normales. Voilà, ça fait partie aussi des choses à supporter. Des choses à supporter, c'est avoir des cadeaux différents de la part de Dieu, des dons, donc des cadeaux, hein, des grâces différents. Je sais pas ça, oui, mais c'est pas grave. Voilà, tout ça pour dire que oui, la diversité peut créer un déséquilibre. Mais on voit ici ce bel exemple qu'ils sont tous unis dans cette différence. Je voudrais être concret encore pour dire, voilà, pour être plus concret aujourd'hui. Vous savez, il y a des gens qui pensent que la doctrine, c'est très important. Alors, il faut étudier. Et puis, quelqu'un va dire, mais pour annoncer l'évangile, on n'a pas besoin de tout ça. Alors, ces gens qui sont dans la doctrine, ils sont hors sol, quoi. Ils sont déconnectés de la vie. Nous, il faut être sur le terrain, vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Eh bien, on a besoin des deux. Eh oui, on a besoin des deux. Par exemple, il y a la louange. Et certains vont dire, mais si on n'a pas un orchestre, quelque chose d'extraordinaire, qui justement, c'est parce que ça va stimuler la louange. On voit tout l'Ancien Testament que des instruments, on voit beaucoup de chanteurs, etc. Voilà, pour stimuler la louange. Mais s'il n'y a pas ça, il ne peut pas de louange. Il peut y avoir de la louange. On peut trouver plein de versets pour nous montrer ça. Par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Il y en a qui vont dire, mais il faut que nous soyons en prière, parce que c'est par la prière, la puissance de la prière, on chante ça aussi, et que Dieu, il ouvre les cachots, c'est lui qui il fait couler l'eau, etc. C'est lui qui transforme tout. Alors, restons en prière. Et pendant ce temps, il y aura quelqu'un qui dira, mais non, la Bible dit qu'il faut s'occuper des veuves et des orphelins, donc il faut être toujours sur le terrain. Oui, il y a plein de choses comme ça. Il faut les deux. Voilà ce qui c'est tellement important. Oui, notre diversité, c'est une richesse quand on a compris qu'il en avait besoin des deux. Mais, rappelez-vous une chose, si on a des sensibilités différentes, pour celui qui a une sensibilité particulière ou un ministère particulier, écoutez bien ça, il n'y a rien de plus important que son ministère. Puisqu'on est dedans à fond, il n'y a rien de plus important que son propre ministère. Sauf que dans la réalité, chaque chose a sa place, chaque chose est importante. L'important, c'est qu'elle soit vécue avec le Seigneur, en harmonie les uns avec les autres. Alors, j'aimerais terminer ce parcours avec Antioche. Sachant que cette ville d'Antioche, cette église d'Antioche, l'histoire ne se termine pas là. Et avec ce chapitre 13, on vient de découvrir que à partir de là, il y a un voyage de Barnabas et Saul qui commence. Autrement dit, Antioche, puisqu'ils vont revenir là, va être comme, comment on appelle ça, une base arrière de l'évangélisation dans toute l'Europe, chez les non-juifs. Voilà. Et cette église qui a été le résultat de cette persécution va être justement le QG, si vous voulez, de toute l'œuvre missionnaire qui est décrite dans le livre des Actes. C'est quand même assez extraordinaire. Et de voir que après le voyage, eh bien, il va y avoir un compte-rendu qui va être fait. Et c'est très beau de voir l'intérêt, justement, et encore, on peut dire, une manifestation de cette église en bonne santé. Elle s'intéresse à l'œuvre du Seigneur, comment Dieu agit. Et vous regardez à la fin de ce chapitre 14, une fois arrivé, donc à Antioche, Saul et Barnabas, ils réunirent l'assemblée, verset 27. Ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. Et séjournèrent alors assez longtemps avec les disciples. Il y a eu une difficulté dans le voyage. Et c'est aussi ça, on pourrait se dire idyllique. Non, non, pas du tout. Il y a eu dans le voyage, j'avais déjà eu le premier voyage, un gros problème quand même. Il y a Jean qui les a abandonnés. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Mais la grâce de Dieu a fait que dans ce premier voyage, eh bien, dans cette épreuve, parce que ce n'était pas rien, le compagnon s'en va, ils ont été forts, ils ont tenu. Ce sera au début du deuxième où ça va être compliqué, mais là ils ont tenu. Donc oui, l'Église vit de la vie de Dieu, mais elle n'est pas exempte d'épreuves. Deuxième épreuve, au chapitre 15. Des gens viennent de Jérusalem, et pourtant ils avaient été secoués lorsque Pierre, quelques années précédentes, après la rencontre avec Corneille, il dit « Hop, viens nous voir ici, qu'est-ce que t'as fait ?» Et t'as mangé avec un non-juif, là. Et ils avaient été convaincus par ce que Pierre avait répondu. Eh bien, quand même, il y a des gens là qui sont des réfractaires. Ça arrive partout. Depuis le début, ça arrive. Et ils viennent à Antioche pour mettre le souk en disant, non mais attendez, si vous ils sont pas circoncis, ça marche pas. Allez-y. Épreuve. Autrement dit, on est dans le chemin de Dieu, on est dans vraiment l'œuvre de Dieu se fait, et pan, les épreuves arrivent derrière. Alors ça veut dire on s'est trompé? Non. Si l'épreuve n'est pas formatrice, elle est révélatrice de mon état, mon propre état. Où est-ce que j'en suis dans ma relation avec le Seigneur? Et si vous voulez retenir au moins une chose de ce que je vous ai dit là, ce soir, c'est que ce qui va vous tenir ensemble, c'est pas si vous êtes fort en doctrine. Même si c'est nécessaire qu'il y ait des docteurs. Pendant un an, ils sont formés. Formez-vous. L'étude de la parole, l'interprétation biblique, savoir que veut dire les textes. C'est important. Il faut que nous ne soyons pas des enfants ballottés et ça et là partout vent de doctrine. Non, mais ferme, appuyé sur quoi? Pas sur le ressenti ou ce que je ressens. On est dans le bon chemin. Non, ça ne marche pas. Ça c'est. Mais vraiment attaché à la parole de Dieu. Faites-vous aider. C'est essentiel. Mais ce qui va vous tenir unis, c'est quand votre cœur est attaché au Seigneur. Quand mon cœur est attaché au Seigneur, vraiment, très fort. Alors, cela guérit tout ce qui pourrait être un début de maladie. Le grand bonheur que nous avons, la grâce que nous avons de pouvoir servir ensemble. Rappelez-vous que chacun de vous, chacun de nous, nous sommes le fruit du travail d'un ensemble de personnes qui ont été un maillon d'une chaîne pour ma conversion, pour ma croissance. Et chaque fois, ça a nécessité beaucoup de travail. Paul, il parle des douleurs de l'accouchement, pour parler du travail qu'il a pour que les personnes deviennent matures. Vous retrouvez ça dans le Nouveau Testament. Voilà. C'est chaque fois, justement, il y a quelqu'un qui est sur mon chemin pour m'aider à me consacrer au Seigneur. Qui va me permettre à moi-même, à mon tour, de me consacrer au Seigneur et d'être que mon être tout entier soit comme une offrande. C'est ce que la Bible appelle rendre culte. Je termine avec une image. Vous savez, je ne sais pas s'il y en a qui font du bateau ici, oui, qui ont fait du bateau, je crois, oui. En tout cas, il y a des bateaux qui restent toujours au port. Même aujourd'hui, la mode Airbnb, on loue des bateaux, mais surtout, ils ne bougent pas. Mais voilà. Alors, les voiles sont rangées. Leurs propriétaires aimeraient faire le tour du monde. Ils montent sur leur bateau, le vent se lève. Il y a un petit clapotis dans le port, là, un peu de tangage, des bruits de la drisse contre le mât. Et ils se disent, oh, nous avons eu des émotions ce matin, ça fait du bien. Peut-être que vous êtes là un peu à la fin de ce culte. Il y a eu des émotions un peu ce matin. Mais si tu ne sors pas les voiles, tu seras toujours au port dans 10 ans. Par contre, si tu lèves l'ancre, détache la corde, tu dresses les voiles. Quand le vent de l'esprit souffle, tu avances dans sa direction. C'est ce qu'ont fait Paul et Barnabas, et ce que je souhaite pour chacun de vous, que vous puissiez vraiment accomplir la raison pour laquelle vous êtes nés. Le problème, ce n'est pas de savoir si je serai plus tard X ou Y, ou je referai ceci ou cela, mais vis pleinement maintenant ce que le Seigneur te fait vivre. Et tu verras, ça sera pour l'harmonie de l'Église. Ouais, que le Seigneur vous accorde cette grâce, ici à Orange, de pouvoir vivre votre complémentarité. Il y a des choses essentielles où on ne tergiverse pas. C'est sur ce qu'on a rappelé ce matin, la mort, la résurrection de notre Seigneur comme base de notre foi. Le reste, c'est secondaire, c'est pas essentiel, Ça ne veut pas dire que c'est pas important. J'ai dit c'est secondaire. Alors au moins, sur ces choses secondaires, que le Seigneur vous accorde de pouvoir vivre quelque chose, finalement, qui va vous renforcer dans votre relation et votre amour les uns pour les autres. Que le Seigneur vous bénisse.